Et donc, voilà, je trouve que c'est une très jolie histoire, parce que du coup, en la traduction française et anglaise, il a retrouvé son titre original, si je puis dire. Mais il y a encore une autre aventure avec ce titre, c'est qu'au Brésil, il s'appelle, il ne voulait pas de Jérusalem, parce qu'au Brésil, en fait, les églises évangélistes sont très puissantes. Donc l'éditeur pensait, oui, on va croire que ton livre, c'est un livre sur une secte évangélique. Et donc, au Brésil, il s'appelle Antes do Nascer do Mundo, donc avant la naissance du monde. Et alors, si vous voulez bien, je... Oui, peut-être que d'abord, je vais vous dire de quoi ça parle. En fait, l'accordeur de silence donc, se passe dans une ancienne réserve de chasse. C'est l'histoire d'un père qui est devenu fou, on peut dire, et qui est la suite en fait, d'un drame personnel, soustrait ses enfants au monde et les emmène en fait, dans cet endroit reculé, en pleine brousse et au milieu des bêtes sauvages. Et en fait, il essaye de reconstituer un monde qu'il rebaptise donc Jérusalem. Dans ce monde, c'est lui-même qui fixe les lois, comme enfin, il se prend vraiment pour un dieu. Donc, on ne peut pas apprendre à lire, on ne peut pas franchir l'autre côté. Et les enfants, donc, ils sont eux-mêmes rebaptisés, ils rebaptisent ces enfants. Et ils sont initiés à la chasse par un personnage qui s'appelle Zacharia Kalash, et qui a fait la guerre de libération. Et c'est une femme, en fait, qui fait irruption donc, dans ce monde, qui peu à peu va se fissurer, et qui va faire que dans la deuxième partie du livre, en fait, ils vont retourner en ville, si je puis dire. Et en fait, dans ce livre, c'est le fils, Moamit, excusez-moi, qui vient de Moine, qui veut dire garçon, ou fils en chissène. Et alors, si vous voulez bien, je vais vous lire un petit passage de l'accordeur de silence. Alors, d'abord en portugais. Un peu plus long, peut-être en portugais, si ça ne me dérange pas. Alors, je vais peut-être voir le bon, clairement. Ça va, vous m'entendez ou je parle de plus en plus bas? Sou o único homem a bordo do meu barco. Os outros são monstros que não falam. Tigres e ursos que amarrei aos remos e o meu desprezo reina sobre o mar. E há momentos que são quase esquecimento, numa doçura imensa de regresso. A minha pátria é onde o vento passa, a minha amada é onde os roserais dão flor. O meu desejo é o rastro que ficou nas aves e nunca acordo deste sonho e nunca durmo. Eu, Juanito, o afinador de silêncio. Escuto, mas não sei se o que ouço é silêncio ou Deus. A primeira vez que vi uma mulher tinha 11 anos e me surpreendi subitamente tão desanimado que desabei em lágrimas. Eu vivia num ermo habitado apenas por 5 homens. Meu pai terá o nome ao lugarejo, simplesmente chamado assim Jesus Além. Aquela era a terra onde Jesus haveria de se descrucificar e pronto final. Meu velho Silvestre Vitalício nos explicará que o mundo terminará e nós éramos os últimos sobreviventes. Depois do horizonte, figuravam apenas territórios sem vida, que ele vagamente desenhava por lado lá. Livre 1, l'humanité. Je suis le seul homme à bord de mon bateau. Les autres sont des monstres qui ne parlent pas. Des tigres et des ours que j'ai attachés aux rames et mon dédain règne sur la mer. Et il est des moments de quasi-oubli, dans une immense douceur de retour. Ma batterie est là où le vent passe, mon aimé est là où les roseraies fleurissent, mon désir est la trace laissée par les oiseaux. Et jamais je ne m'éveille de ce rêve, et jamais je ne dors. Moi, Juanito, l'accordeur de silence. J'écoute, mais ne sais, c'est ce que j'entends est silence ou Dieu. La première fois que j'ai vu une femme, j'avais 11 ans, et je me suis trouvée soudainement si désarmée que j'ai fondu en larmes. Je vivais dans un désert habité uniquement par 5 hommes. Mon père avait donné un nom à ce coin perdu, simplement nommé Jérusalem. C'était cette terre-là où Jésus devrait se décrucifier, et point final. Mon vieux, Silvestre Vitalis, nous avait expliqué que c'en était fini du monde, et que nous étions les derniers survivants. Après l'horizon, ne figuraient plus que des territoires sans vie qu'il appelait vaguement l'autre côté. En peu de mots, la planète entière se résumait ainsi. Dépouillée d'humanité, de routes et d'empreintes animales, les âmes en peine s'étaient elles aussi éteintes dans ces lointaines contrées. En contrepartie, il n'y avait que des vivants à Jérusalem, ignorant la saudade ou l'espoir, mais des gens vivants. Là, nous existions si seuls que nous ne souffrions même pas de maladie, et moi, je nous croyais immortels. Seules les bêtes et les plantes mouraient autour de nous. Et dans les étiages, notre fleuve sans nom, un cours d'eau qui coulait à l'arrière du campement décédé de mensonges. L'humanité, c'était moi, mon père, mon frère Nunzi et Zakaria Kalash, notre domestique, qui, comme vous le verrez, n'avait même pas de présence, et personne d'autre, ou presque. À vrai dire, j'ai oublié deux semi-habitants, l'ânesse Jésiberne, tellement humaine qu'elle noyait les divagations sexuelles de mon vieux père, et je n'ai pas évoqué non plus mon oncle Aproxima. Ce parent mérite une mention, car il ne vivait pas avec nous dans le campement. Il habitait près du portail à l'entrée de la concession de chasse, au-delà de la distance autorisée, et nous rendait seulement visite de temps en temps. Les hommes et les bêtes sauvages s'étendaient entre nous et sa cabane. Pour nous, les gosses, l'arrivée d'Aproxima était le motif d'une très grande fête, un ébranlement dans notre aride monotonie. L'oncle apportait des vivres, des vêtements, des biens de première nécessité. Mon père, nerveux, sortait à la rencontre du camion où s'entassaient les commandes. Il interceptait le visiteur avant que le véhicule ne franchisse le mur qui entourait le bloc de maison. Aproxima avait l'obligation de se laver afin de ne pas rapporter de contamination de la ville dans cette enceinte. Qu'il fasse froid ou qu'il fasse nuit, il se lavait avec de la terre et de l'eau. Après son bain, Sylvestre débagageait le camion, hâtant les livraisons et courtant les adieux. En un instant volatile, plus bref qu'un battement d'aile, devant notre regard angoissé, Aproxima nous éteignait à nouveau au-delà de l'horizon. « Ce n'est pas mon frère direct, » disait Sylvestre pour se justifier. « Je ne veux pas trop de parlotte, cet homme ne connaît pas nos coutumes. » Cette maigre humanité, unie comme les cinq doigts, était en définitive divisée. Mon père, mon oncle et Zakaria étaient noirs de peau, moi et Nunzi aussi, mais de peau plus claire. « Nous sommes d'une autre race ?» demandai-je un jour. Mon père répondit. « Personne n'a de race. Les races, dit-il, sont des uniformes que nous endossons. » Peut-être Sylvestre avait-il raison, mais j'ai appris trop tard que cet uniforme se colle parfois à l'âme des hommes. « Ça vient de ta mère, Doltaon, douleur d'âme, cette clarté de ta peau. Arwin était un petit peu métisse, éclaira mon oncle. » La famille, l'école, les autres, tous élisent pour nous une clarté prometteuse, un territoire dans lequel briller. Les uns sont nés pour chanter, d'autres pour danser, d'autres simplement nés pour être autres. Je suis née pour me taire. Le silence est mon unique vocation. C'est mon père qui m'a expliqué. J'ai un don pour ne pas parler, un talent pour épurer les silences. J'écris bien silence au pluriel, oui, car il n'est pas de silence unique. Et chaque silence est une musique à l'état de gestation. Lorsqu'on me voyait, immobile et reclus dans mon invisible recoin, je n'étais pas prostrée. J'étais comblée, l'âme et le corps habités. Je nouais les fils délicats dont on tisse la quiétude. J'étais un accordeur de silence. Et en fait, dans l'extrait que je viens de vous lire, en fait, s'ouvre par un poème d'une grande poète portugaise qui s'appelle Sofia de Melo Brenner Andressen. Donc la traduction d'ailleurs est de Michel Chandaigne, Joachim Vital, qui ont traduit. Cette poète est largement traduite en français. Et, elle est née en 1919 et décédée en 2004. Et c'est une femme très très importante dans la poésie contemporaine portugaise parce qu'elle s'est aussi battue très largement contre la dictature portugaise. En fait, la particularité en fait de ce livre. L'une des particularités, c'est vraiment d'instaurer en fait un dialogue en fait avec la poésie, donc parce que chaque chapitre et chaque partie s'ouvre sur un poème, donc de voix féminine, donc Sofia, et puis une poète brésilienne qui s'appelle Adélia Prado, et une autre poète brésilienne qui s'appelle Hilda List. Voilà. Donc, vous pouvez lire dans la bibliothèque, elles sont aussi traduites en français. Et en fait, ça c'était le deuxième livre dont je voulais parler, qui est vraiment un livre aussi, enfin, que j'aime vraiment énormément, qui est très important aussi pour moi. Et donc là, je voudrais aborder la poursuite, si je puis dire, de ce dialogue poétique, mais cette fois-ci avec l'œuvre qu'il a entreprise très récemment et sur laquelle je travaille depuis plus de 3 ans. Parce que c'est une trilogie sur l'histoire du Mozambique, qui s'appelle donc Les Sables de l'Empereur, une trilogie mozambicaine, qui est à paraître aux éditions Lépayer, peut-être à la rentrée, et qui est donc composée de 3 volumes. Un premier volume qui s'appelle Femme de cendre, un deuxième volume qui s'appelle L'épée et la sagaie, et un troisième volume qui s'appelle Le Buveur d'Horizon. Et l'ensemble fera à peu près, je pense, entre 800 et 900 pages. C'est un livre très particulier, puisqu'il s'agit en fait là de l'histoire coloniale portugaise et des campagnes coloniales au Mozambique à la fin du 19e siècle. Et d'autre part, donc c'est la fin de l'histoire de l'État de Gaza, de l'empereur Mongonian, qui s'est opposé en fait à la colonisation des Portugaises, donc à la fin du 19e au Mozambique. Et en fait, dans cette trilogie, en fait, le récit nous est livré par une jeune femme qui s'appelle Imani et qui a le rôle de traductrice-interprète auprès donc de l'administration portugaise, puisque c'est un personnage, enfin c'est une femme qui a été élevée entre, si je puis dire, le portugais du colon et sa langue, le tchop. Et donc c'est elle qui va nous raconter cette histoire, et avec les lettres d'un sergent portugais qui s'appelle Germain de Mel, qui a été déporté au Mozambique parce qu'il était pour la République, il voulait mettre fin à la monarchie. Comme là au Portugal, il y a le roi d'Ankara. Et donc le premier livre, c'est en quelque sorte le livre de la terre, puisqu'on va avoir en fait une très très grande description en fait de ce village de Nkokolani et de l'ethnie des Chopes. Parce que l'ethnie des Chopes a une histoire très singulière, puisqu'en fait elle a fait alliance avec les Portugais contre l'empereur Mongolian, ce qui a pu lui être reproché par la suite.